Devenir par Synapse, pour devenir la meilleure version de soi-même.
Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Devenir. Ici, nous explorons des sujets qui nous passionnent, le développement personnel et l'entrepreneuriat. Alors mets-toi à l'aise, augmente le volume et sois prêt à avoir l'esprit soufflé.
Aujourd'hui, dans le podcast de Synapse, j'ai l'honneur, le privilège de recevoir un ami, Fabien Sanicis, quelqu'un qui était dans la même école que moi, un manager, alors que moi j'étais ingénieur, mais qui avait dit qu'il ne serait jamais entrepreneur et contre toute attente, il a créé quelque chose qui m'a servi à moi-même en tant que client et que j'admire énormément parce que c'est vraiment une entreprise qui va bien, mais qui en plus fait un gros impact dans la société française et d'une certaine manière qui rayonne dans le monde aussi. Donc, merci Fabien d'être là.
Merci beaucoup Alex, ça fait plaisir ce que tu viens de dire, c'est vrai. Entrepreneur depuis que j'ai 25 ans.
Est-ce que tu veux nous dire un petit peu d'où tu viens, c'est quoi le cadre où tu as grandi et comment ça a commencé cette aventure?
Ben, à la base, moi j'ai grandi donc dans le 93, dans un quartier plutôt sympa. Et lorsque j'ai eu l'occasion d'aller en école où on s'est rencontrés, Alex, c'était une école géniale parce que c'était une école qui mêlait à la fois des ingénieurs de télécom et des profils d'écoles de commerce. Donc, en fait, on pouvait tout créer et le vendre nous-mêmes. C'était vraiment extraordinaire. Ce moment-là était vraiment génial parce que bah, du coup, on a pu se rencontrer, mais on a pu aussi rencontrer tout un tas de profils de créateurs et on pouvait créer les produits, les mettre sur le marché, les vendre. Et c'est pour ça que bah, dans notre école, il y a de super marques qui sont nées. Je pense qu'à l'époque, on nous parlait de club Internet. Maintenant, c'est des showrooms privés, il y a d'énormes entrepreneurs. Et moi, très rapidement, j'ai fait comme toi. Hein, je me suis dit, on va apprendre beaucoup avec les copains, on va se mettre dans les associations, on va bosser à fond. Et une fois qu'on a fait ça, tout de suite après, moi, j'ai eu l'occasion de partir de bosser dans le pétrole. Et donc, j'ai pu faire un peu globe-trotter. Alors, le truc qui était le plus amusant, c'est que dans le pétrole, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de consultants indépendants. Et les besoins de ces consultants indépendants étaient adressés par des protections sociales, parfois dans des pays du Moyen-Orient ou dans des pays type le Panama. Et ces protections sociales, en fait, ne couvraient pas forcément un pétrolier qui, certes, pouvait être légitime sur cette protection sociale-là, mais qui n'avait pas forcément toutes les protections que peut recouvrir, par exemple, la protection sociale française. Et à 25 ans, je découvre ce système embryonnaire du portage salarial. Et là, je me dis, ah, c'est quand même sympathique parce que le freelance, il est protégé comme un salarié. En 2010, ce n'était pas encore légalisé, mais on se dit, c'est sûr que ça va aller vers là. Là, en fait, à 25 ans, moi qui avais dit que je ne veux jamais être entrepreneur, j'ai embrassé l'entrepreneuriat avec les anciens directeurs de la société Géoservice où j'étais.
Wow. Donc ça, c'est très atypique quand même, de l'employé devient cofondateur avec les directeurs de la boîte où tu travaillais.
Ça faisait 4 ans, 5 ans qu'on bossait ensemble. Et lorsque la société a été vendue à un grand groupe parapétrolier, moi, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'un renouveau. L'ancien dirigeant créait une société qui se disait, tiens, le portage salarial, c'est quand même un truc sympa pour nos freelances. On aurait pu l'appliquer pour nos pétroliers. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est une super bonne idée. Ça faisait 2 ans qu'on bossait ensemble au marketing. On a créé la boîte ensemble.
Et pour toi, la prise de risque, ça s'est passé comment? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, ils sont dans des corporate jobs et ils veulent switcher à l'entrepreneuriat, mais ils ont peur, ils se disent quand même, c'est dur le début. Pour toi, ça s'est passé comment?
Non, mais tu poses une super question. Parce que moi, en fait, j'ai entrepris à 25 ans. Et les associés, Benoît et Jean-Hugues, Jean-Pierre, ils ont entrepris à 50 ans. Mmh. Et le point commun qu'on avait, c'est que soit il n'y avait pas d'enfants, soit les enfants étaient beaucoup plus âgés. Tu poses une super question de l'entrepreneuriat. Parce que je me suis posé la question maintenant que j'ai 2 enfants. Mmh. Est-ce que j'aurais refait la même à 35, 37 ans, alors qu'à 25 ans, bon, tu gagnes, de toute façon, tu vis avec peu, en fait. À 25 ans, on vivait encore comme des étudiants. Et tu te dis, en fait, il y a tout à gagner. L'espérance du gain, elle est positive. Quoi que tu fasses, ça peut être que mieux, puisque si jamais tu crées un super produit, la carrière est lancée, l'entreprise est lancée. Puis si ça échoue, bah, soit tu recrées une autre boîte, soit tu retournes bosser un petit peu à côté. Tu n'as même pas besoin d'avoir de réserve, en fait. 25 ans, la vie est facile. En plus, tu n'as pas encore les enjeux de l'entreprise. Donc, en fait, c'est très facile, cette partie-là. À 35 ans, est-ce que j'aurais fait la même? Je ne sais pas.
Et comment ça s'est passé un petit peu? On sait que c'est une montagne russe émotionnelle, l'entrepreneuriat. C'est quoi les moments clés que tu te souviens? Est-ce que vous avez été à des moments prêts de fermer la porte ou tu as pensé à repartir en tant qu'employé à des moments de l'aventure?
Alors, il y a encore une fois un gros avantage quand tu lances la boîte, c'est que tu indexes ton modèle économique de vie personnelle aussi. Et ça, c'est très important. Tu l'indexes peut-être pas sur du minimalisme, mais vraiment pas loin, en fait. Il y a eu ce documentaire sur Netflix qui était génial sur le minimalisme. Et en fait, en vrai, tu n'as pas besoin de grand-chose pour vivre, surtout quand tu n'as pas d'enfant. Ça, c'était les premières présentations qu'on faisait. Souvent, les consultants indépendants disaient « Oui, mais on voit que vous n'avez pas encore d'enfant. » Ben, ils avaient raison, en fait. Donc, à partir de là, tu vis dans 20 mètres carrés, 30 mètres carrés dans Paris. Tu as 27, 28 ans. En fait, tu indexes ton niveau de vie sur ce que tu touches. On s'est nous-mêmes lancé en indépendant quand même pour tester notre service, pour voir l'expérience utilisateur, pour tester aussi les enjeux du consultant indépendant, allant jusqu'à se dire, voilà, les notes de frais, on doit les taper dans le métro, on doit les taper avec son mobile. Donc, ça serait quoi l'expérience super sympa pour en fait rendre sa gestion en moins de 5 minutes par mois, tout, facturation, frais, paye. Et donc, en étant nous-mêmes consultants indépendants, on avait ce complément de revenus. On a pu développer la boîte et tout réinvestir pendant 5 ans. À partir de là, quand en 2016-2017, le portage a été légalisé, parce qu'avant, ça ne l'était pas forcément, donc on avait beaucoup de questions et de challenges, et ben, on avait ce qu'il fallait pour vivre, en fait, en revenus récurrents. Et là, on a pu embaucher l'équipe. Et donc, à partir de là, c'était sympa. Puis après, on a eu un petit apport en capital d'un industriel de notre secteur de la paye, un Belge qui était top. Et ça nous a permis de développer le produit qu'on a actuellement.
Mais... Donc, les premières 5 années, en gros, c'était que vous, c'était que l'équipe fondatrice en mode minimaliste.
C'est l'équipe fondatrice en mode minimaliste a testé le modèle du portage avec l'incertitude que potentiellement, ça pouvait ne pas être légalisé, mais on a toujours su que ça allait l'être. À faire ses armes sur l'expérience utilisateur, sur la gestion des comptes d'activité, sur la gestion de la facturation d'un client, est-ce qu'il fallait faire ou non les avances et tout. Et effectivement, avec les associés, ouais, ça a été le mode minimaliste pendant 5 à 7 ans. On n'avait pas trop d'enjeux financiers de toute façon, donc c'était le bon plan. Puis à partir du moment où ça a été légalisé, là, on a senti une espèce d'appel d'air dans le secteur. On est passé de 150 sociétés à 400. On a vu de tout, mais de tout. Du portage ultra low cost, soi-disant la tech fait tout, mais ouais, enfin, on est quand même un métier de service aussi d'accompagnement aux consultants indépendants. Mmh. Et au portage à 15% de la facturation non plafonnée. Nous, on a essayé de trouver, on s'est vachement inspiré de Blue Ocean Strategy. Donc, on a essayé de trouver le juste milieu, le juste prix, le bon équilibre entre la réactivité et la tech. Pour créer une expérience sympa, mais pour que ce temps dégagé puisse nous permettre d'avoir des relations très fortes avec les consultants et ensuite réinvestir vraiment dans la communauté et l'animation. Si on s'est appelé OpenWork, c'est qu'on s'est dit, voilà, il y a les salariés, il y a les indépendants qui créent leur structure, mais il faudrait ce statut d'open worker qui peut bosser où il veut dans le monde et être protégé commercialement, socialement, administrativement et financièrement, et ce, en 5 minutes de gestion par mois et onboarding de 15 minutes. Et là, l'année 2021 a été une grosse croissance parce qu'on a fait plus 43% de croissance au sortir d'un Covid qui avait fait un petit peu freiner notre rythme de 30-40% par an. C'est plutôt sympa. On était contents.
Et au niveau personnel, donc toi, en développement humain pendant cette aventure, quelle a été la différence entre peut-être les compétences que tu as développées dans ces premières 5 années où tu faisais tout ce que tu viens de décrire et dans cette partie qui est venue ensuite où tu es devenu le CEO, en gros, de l'entreprise. Et comment est-ce que ça a été pour toi, le développement personnel?
Voilà, c'est une super question. Parce qu'en fait, Alex, tu te souviens, en école, on nous apprenait à faire des présentations, des éléments comme ça. Et même au début, quand tu crées l'entreprise, tu arrives avec toute ta théorie, tout ce qui serait bien et tout. Mais en fait, vraiment, vraiment, vraiment l'entrepreneuriat, c'est vraiment faire les choses, tu vois. Ouais. Et de plus en plus, ce que j'apprécie en tant que CEO, c'est des fois, mais tu vois par exemple des messages sur le support, tu dis, je ne comprends pas comment le consultant, il en est arrivé là, tiens. Et je prends le support une journée ou deux journées. Je décroche au téléphone. Un peu comme Nip Tuck, vas-y, dites-moi ce que vous n'aimez pas chez nous, quoi. Expliquez-moi, c'est où que ça a pu louper? Ah, c'est là, ah, d'accord. Ah, on ne l'avait pas envisagé. On n'avait pas envisagé ce cas précis et tout. Et là, tu rentres sur un schéma d'amélioration continue extraordinaire. En fait, je trouve que ce qu'on apprend dans l'entrepreneuriat, c'est que tu mets les mains dans le truc qui ne marche pas de A à Z. S'il faut que tu comprennes le bout de code qui ne marche pas, tu comprends le bout de code. S'il faut trouver des petits outils, parce que tu en as une tonne, pour faciliter les choses, là, on s'est aperçu que le standard était pas mal booké. Il y a Véronique qui est en charge chez nous du consultant Success Management, du CSM. C'est à la mode en ce moment. Et elle m'a dit, mais viens, ça ne serait pas super cool parce qu'on ne rappelle pas tout de suite de permettre aux gens de booker, parce que les consultants sont souvent des managers de transition ou des consultants développeurs, ils veulent se booker un créneau. Ils appellent sur standard, tu as un SMS automatique qui répond et qui dit, tiens, on n'arrive pas enfin, on n'a pas pu décrocher, de quoi tu as besoin? Pof, tout le truc, ça concerne quoi ta facturation? Clac, book un créneau de 15 minutes et on résout ton problème avec toi dans 24 heures, tu vois. Et rien que cette idée de mettre les mains dans le cambouis, de mêler deux, trois outils qui s'interconnectent et de dire, viens, on fait le test pendant une journée ou 48 heures, voir si les gens bouclent les rendez-vous. Ben, en fait, tu mets les mains dans le réel, dans le concret, dans voilà, qu'est-ce qui génère la valeur ajoutée. Et ça te ramène dans le pratico-pratique du quotidien, quoi. Einstein disait une devise du type la théorie, c'est quand tout fonctionne, mais ça ne marche pas. Et la pratique, c'est quand ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. Et on a réuni théorie et pratique, et rien ne marche, on ne sait pas pourquoi. Et ben, en fait, je trouve que l'entrepreneuriat te met concrètement face à tes réalités tous les jours. Ok, tu pensais dans ta tête que ça marchait, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Et tu targetes le problème de manière réaliste. Tu n'es plus dans l'évolution de ces 10 dernières années. C'est maintenant, j'ai un problème, je dis comment j'en suis arrivé là? Peut-être il y a 8 ou 9 ans, quand tu es entrepreneur débutant, tu dis, mais non, mais ce n'est pas un problème, ça va se gérer, facile, tranquillou. Ben, pas du tout. Là, tu es réaliste, optimiste, mais réaliste. Là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas?
Et avec la croissance d'OpenWork, où maintenant, vous avez une belle aventure humaine avec beaucoup d'équipes, et toi, ton rôle, il change, j'imagine. Tu continues à résoudre les problèmes, tu continues à être pied à terre, et tu mets les mains dans le cambouis, entre guillemets, pour résoudre les choses. Mais tu as dû aussi développer peut-être de nouvelles compétences. Je ne sais pas, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi au niveau perso dans cette...
on a une super équipe et je suis vraiment très content de bosser avec les gens avec qui je bosse. Ils sont vraiment canons. Et le truc que tu peux avoir tendance à faire en tant que dirigeant, jeune dirigeant comme je l'étais, c'est faire à la place de toujours avoir raison, toujours dire c'est sûr que c'est comme ça que ça se passe, d'expérience, ça fait 6 ans, blablabla. Et au final, tu te rends compte que si tu veux être un bon CEO, bah, tu laisses les gens parler. Tu poses des questions, mais tu laisses parler les gens et formuler les problèmes et formuler les problématiques et formuler même les méthodes de résolution. Tu apportes ta pierre à l'édifice, tu poses des questions, tu challenges, tu exprimes ce que tu ressens. Ça, c'est un autre truc que j'avais peur de faire, c'est tu passes du « c'est bon, j'ai aucun problème » à « en fait, bah, voilà, j'ai tel problème, est-ce que vous aussi… » ah, en fait, on se rend compte qu'on a le même problème, parlons-en et résolvons-le, quoi. CEO, t'admets tes faiblesses parce que tu titilles tes limites en permanence. En permanence, tu dois expliquer. En plus, avec un enfant en bas âge, tu te retrouves à gérer des équations, aller le chercher à 18h30, bosser jusqu'à 21h, te dire ce soir-là, ben voilà, je prends un break. C'est amusant, hein. C'est un vrai parcours de vie.
Tu parles un petit peu de, c'est bien cet exemple du bébé, ça fait aux gens comprendre concrètement à quoi ça peut ressembler la vie d'un entrepreneur, sachant qu'en plus, toi, C'était quand même déjà, l'aventure était bien avancée. Il y avait eu de levée de fonds, il y avait eu toute une structure. Comme tu l'as dit, tu ne sais pas si tu l'aurais fait au niveau de la vie systémique, on va dire, d'équilibre de l'entrepreneuriat avec d'autres piliers. Il y a des gens qui sont très radicaux et qui disent on ne peut rien faire d'autre. Il y en a d'autres qui disent non, le lifestyle, c'est possible. Il y en a même qui disent juste en 4 heures, tu peux tout faire, c'est efficace. C'est quoi ta perspective, toi?
Tu veux vraiment résoudre les problèmes? Je ne crois pas que tu puisses dire en 4 heures. En vrai, j'ai de la chance d'avoir une femme qui backup. J'ai de la chance d'avoir un premier gamin de 2 ans qui est super cool. On va voir le second là, qui arrive. Non, la réalité, si on veut l'édulcorer, tu dis que non, mais on peut équilibrer vie de famille. Mais en vrai, en tant qu'entrepreneur, tu es toujours ramené par ta passion de résolution du problème. Donc, en vrai, tu pourrais te dire « Ah non, mais là, je coupe complètement. » Mais dans ta tête, tu ne coupes pas. Et allez, si tu sens vraiment, est-ce que tu as envie de couper, tu vois ? Est-ce que tu n'as pas envie de résoudre le problème ? Est-ce que tu n'as pas envie de t'intéresser au truc ? Est-ce que tu n'as pas envie d'explorer le nouvel outil ? Est-ce que tu n'as pas envie de… C'est moins une question d'équilibre que de passion.
Et qu'est-ce que tu dirais, Fabien, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ils se sont déjà lancés. Donc là, ils sont peut-être freelancers ou alors ils ont une petite boîte qui démarre. Mais voilà, comme ils sont dans les 5 années que tu as passées, toi, en mode minimaliste et parfois à des moments plus compliqués de leur vie. Ou alors, ils sont encore en corporate et ils font un side project, ils font quelque chose à côté. Et ils ont cette envie. Donc, ils ont envie d'explorer cette passion, comme tu dis, de résoudre certains problèmes sociaux, de s'engager. Mais en même temps, ils se disent, bah, de ce que j'entends, moi, je n'ai pas envie de devoir retravailler après le soir. Mon couple, qui ont aussi des valeurs fortes là-dessus. Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire, toi, à tous ces gens qui doutent un petit peu? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vaut le coup, l'entrepreneuriat aussi?
En fait, moi, je bosse le soir parce que j'aime ça. En vrai, mais tu te souviens aussi de l'école. On passait des heures et des nuits entières dans les associations à essayer de déminer des trucs pour la beauté du geste parce qu'on ne gagnait pas d'argent, tu vois. En vrai, j'aime travailler. Donc, j'aime vraiment ça. À 19h30, je vois encore un appel au standard non répondu. Allez, t'appelles le consultant, tu résous son problème avant le vendredi. Des fois, tu réponds le samedi, mais je ne le fais pas. Je n'ai pas l'impression de le sentir au détriment de… Tu vois. Si tu ressens que tu vas sacrifier ta vie stable, équilibrée, de famille, et que ça peut mettre en danger ton équilibre personnel, te lance pas. Si en fait, c'est plus fort que toi, il faut le faire. En fait, le truc, c'est que c'est plus fort que moi. J'aurais beau avoir… une femme que j'aime, des enfants et au grand détriment de, enfin au grand dame de peut-être mes parents et mes beaux-parents, j'aime ce que je fais de manière passionnelle. J'aime résoudre les problèmes. Et dès que tu as ça, alors c'est bien quand tu résous un problème de plomberie à la maison, mais c'est pas bien quand tu résous le problème de l'entreprise alors qu'on est dimanche, tu vois. Mais c'est un appel, je sais pas. Si tu as cet appel, tu le suis. Si tu l'as pas, tu le suis pas.
Ça revient souvent à cette idée que c'est plus fort que toi, que c'est pas vraiment une décision, un choix. C'est que tu avais une mission à l'intérieur de toi et tu as trouvé une manière d'exprimer ton impact sur le monde et du coup, bah, tu es obligé de le faire.
Alors, il y a l'impact sur le monde hein, et puis après, il y a purement égoïstement.
Il y a le plaisir aussi.
De résoudre le problème, tu vois. Tu restes devant le Rubik's Cube et tu te dis, mais putain, je vais bien réussir ce… Je ne suis pas plus con qu'un autre, je vais bien le réussir. Et l'entreprise, c'est un énorme Rubik's Cube, en fait. Tu passes ta vie à changer les cases et à essayer de faire que les faces, elles matchent bien. Et même le jour où tu as fait toutes les faces, tu n'as qu'une envie, c'est de prendre un Rubik's Cube, une face en plus, et de refaire la même chose, tu vois. C'est la passion du problem solving, c'est ce qui nous pousse à l'entrepreneuriat. Il y a évidemment la considération, je résous un problème mondial. Moi, j'étais très content de me dire que les consultants devaient être protégés commercialement, socialement, administrativement et financièrement. Là, il n'y en a pas un. Il y a 2 jours, il me dit, j'ai des petits problèmes de relation avec mon client. Comment je peux couper la poire en deux sur la fin de mission et tout. Tu donnes des conseils, ça fait plaisir et ça lui résout son problème. Mais en vrai aussi, au-delà de cette mission, il y a toi, l'envie de faire un truc qui te parle tous les jours. Et cette résolution du problème, est très personnelle. Et en plus, c'est pas que tu n'aimes pas passer du temps avec ta famille. J'adore ça. Mais le problème solving, je pense que c'est ce qui caractérise nombre d'entrepreneurs. C'est résoudre des problèmes. Je pense que tu peux vivre une vie de passion comme ça.
Et c'est quoi le prochain niveau pour toi aujourd'hui? Donc, tu as déjà... On peut dire que c'est une belle réussite, tout ce que tu as traversé. C'est pour ça qu'on fait le podcast. Ça inspire d'autres gens qui ne sont pas encore passés par là et tout ça et tout. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme les prochains problèmes ou les prochains challenges que tu as envie de prendre dans le futur?
Je pense souvent à un labyrinthe. Tu vois, je me dis, en fait, tu finis le premier labyrinthe du jeu, je sais pas, les grilles qui nous filaient quand on était gamin. Tu n'as qu'une envie, c'est de faire le second labyrinthe qui est un peu plus dur, le troisième labyrinthe. Actuellement, on fait un service pour à peu près 1200-1300 consultants dans l'année et on va dire 700-750 pays par mois sur deux pays, France, Belgique, et un troisième service là qu'on est en train de développer avec les mêmes protections, mais pour les freelances. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ces systèmes soient crystal clear dans l'utilisation pour les utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils s'onboardent, c'est logique. Il prend le système, il crée son premier contrat, c'est logique. La signature électronique, c'est logique. Jusqu'à la paye, le virement instantané, c'est logique. Et actuellement, bah, des fois, je tombe encore dans des impasses du labyrinthe du parcours utilisateur. Et donc, je pense que ça nuit au fait que notre service soit vraiment kickass, tu vois, soit vraiment génialissime. Et tant que ça, je n'ai pas résolu ça, j'ai encore quelques beaux challenges devant moi. Et le next level, c'est que ce service soit appréhendé par de plus en plus de personnes qui voudront utiliser notre service et que l'équipe s'épanouisse à le dérouler tout en découvrant les nouvelles problématiques à résoudre et en résolvant les nouveaux labyrinthes. Donc là, on est à cette croisée où je pense qu'on a encore un challenge pour passer à une scalabilité complète tout en gardant ce niveau de proximité qu'on veut avec les consultants.
Et comment tu vois, Fabien, cette complémentarité humaine, c'est-à-dire qu'on a tous des forces et des faiblesses. Toi, tu es parti direct avec une équipe, avec des cofondateurs. Comment c'était un peu la complémentarité entre vous? Est-ce que vous avez fait venir des employés qui complémentaient là où il y avait des gaps? Aujourd'hui, comment ça se structure tout ça aussi?
Oui, c'est dans le recrutement, on a pris… Alors, tu as plein d'outils, tu as le MBTI, la ProcessCom, l'Ennéagramme. Mm-hmm. Alors, souvent, on a onboardé les gens. Au départ, on y allait comme toute personne qui fait des erreurs de recrutement, seulement les guts, je le sens, avec une espèce de sensation de super pouvoir, la personne va changer. Et ça, c'est une bêtise fondamentale. Et de plus en plus, là, les process de recrutement, on a juste élu 3-4 valeurs qui nous ont paru essentiel. Je pense à Warren Buffett, parce que Warren Buffett, il avait dit clairement, quand on bouge des gens, c'est intégrité, intelligence et énergie. Et le problème, c'est que si quelqu'un est intelligent et énergique, mais qu'il n'est pas intègre, tu as double de problèmes. Donc nous, un peu sur le même principe, on établit 4-5 valeurs qu'on voit en entretien. On a établi la sérénité. Tu dois être serein, quel que soit le sujet, ça peut être grave, mais il faut rester serein parce que de toute façon, ce n'est pas en paniquant que tu vas résoudre le problème. L'efficacité, c'est-à-dire il faut essayer de trouver au maximum le chemin critique, c'est-à-dire le compromis entre j'accomplis la mission, j'enregistre que j'aurais pu faire mieux et du coup, j'ai une voie d'amélioration pour améliorer l'enjeu suivant. Il y a aussi l'amour du travail bien fait. C'est aimer finir le job. Tu vois, tu finis, tu as fini la mission. Donc, c'est vraiment aimer cette partie-là. Et ce qui est amusant, c'est que l'efficacité et l'amour du travail bien fait, ça peut peut-être être mis en opposition, mais nous, on les voit comme complémentaires en comprenant. Et en fait, tous les entretiens sont tournés autour de ces valeurs. Est-ce que la personne va être sereine? Est-ce que la personne va être bien sûr intègre, hein? On gère quand même l'argent des consultants indépendants. Donc, c'est très important, cette notion-là chez nous. Est-ce qu'on va avoir aussi de l'affinité face au travail? Et alors, c'est là où je t'avais parlé de la culture spartiate, tu vois. Spartiate, tel que tu le vois dans le film 300, c'est le bouclier, en fait, il ne protège pas toi, il protège la personne de gauche. Donc, si c'est toi qui faillis, en fait, ce n'est pas toi qui te prends le coup de lance, tu vois. Et donc, on a mis vraiment ça au centre de nos valeurs, c'est-à-dire qu'en fait, comme on fait un spectacle pour le consultant, depuis son onboarding jusqu'à ses papiers de fin de contrat, Tout ça doit être le maximum, le plus fluide possible. Il ne faut jamais oublier que si moi, j'ai mal onboardé un consultant, en fait, ça se verra jusqu'à sa sortie. Donc, si moi, je n'ai pas tenu le bouclier, la personne suivante va se prendre le coup de lance. Et donc, on cherche aussi des gens très team player. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que tu fais partie d'un spectacle. Si on prend Blue Ocean Strategy, on prend le Cirque du Soleil. Et en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est le Cirque du Soleil dans le portage chez L'Oréal, c'est-à-dire un spectacle qui est smooth et qui fait sens de manière cohérente.
Et au niveau des réseaux, donc toi, par exemple, tu n'avais pas forcément une prédisposition à l'entrepreneuriat de ta famille, de tes origines. Tu as fait une école où, effectivement, on était dans un endroit pour créer.